Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Car alors, il y aura une si grande détresse qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Mes très chers frères, ce jour si redoutable, qui est le dernier, est arrivé. Nous avons souvent envisagé, durant cette année liturgique, cet ultime dimanche qui préside la dernière semaine de notre vie. C'est un jour de calamité et de misère, comme dit la liturgie, où l'Église nous fait annoncer les paroles terribles de notre Seigneur Jésus-Christ concernant la fin des temps. Nous avons plusieurs choses à voir avec l'aide du Saint-Esprit. La première sera de faire une sorte de bilan de notre vie et la lumière de l'oraison de la messe d'aujourd'hui. Et nous verrons les illusions du chrétien en modernité, en particulier. Ensuite, nous aurons à voir, à dépeindre une sorte de tableau, des temps de la fin, avec l'abomination de la désolation qui règne aujourd'hui, et nous verrons en quelques mots comment elle règne. Et enfin, nous terminerons en examinant ces paroles de notre Seigneur, Propter Electos, à cause des élus. Comme nous verrons comment se nous comporter pour être sauvés, nous verrons la réalité de l'Église qui ne peut être détruite et nous verrons aussi quelques indications de l'Écriture pour savoir comment persévérer. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Dans l'oraison de ce dernier dimanche après la Pentecôte, l'Église nous fait demander ceci. Excita quae sumus domine, réveillez Seigneur l'ardeur de vos fidèles, afin que poursuivant avec plus de ferveur le fruit des bonnes œuvres, ils reçoivent de votre miséricorde des secours plus abondants. Il est grand temps, mes très chers frères, de prier ces paroles. Il est grand temps de demander à Dieu qu'il réveille l'ardeur de ses fidèles, c'est-à-dire notre ardeur. Il est grand temps de demander à Dieu que nous poursuivions avec plus de ferveur le fruit des bonnes œuvres. Où sont nos bonnes œuvres, mes très chers frères? Où sont nos bonnes actions? Où sont nos mérites? Voilà la question que nous devons nous poser en cette fin d'année. Certes, il reste encore le reste de la semaine, mais symboliquement parlant, il ne nous reste plus que quelques heures à vivre de notre vie. Où sont nos bonnes œuvres? Où sont nos bonnes actions? Où sont nos mérites? Eh bien, mes très chers frères, malheur à celui qui se flatte d'avoir thésaurisé pour le ciel. Une expression qu'on retrouve un peu par-ci par-là, thésaurisons pour le ciel. C'est quelle audace, quelle présomption. Malheur à celui qui se flatte d'avoir thésaurisé pour le ciel. Malheur à celui qui tient le compte de ce que Dieu lui doit. J'ai prié telle prière avec telle indulgence. Vous savez, il n'y a pas si longtemps encore, on faisait tenir aux petits-enfants des carnets où on leur faisait noter toutes les indulgences, et un peu comme des épiciers qui notent leurs recettes, sauf que les épiciers en ont le droit, et les chrétiens qui tiennent compte de tout ce que Dieu leur doit, tiennent-ils aussi compte des péchés, des infidélités, des éclairs de concupiscence qui ont dénaturé, souillé, voire invalidé les actions de la charité? Si nous avons le cœur le plus pur possible et que nous faisons un acte de charité et que nous le manifestons envers notre prochain ou envers Dieu, selon les catégories d'action que l'Église nous autorise, et si au même moment quelque chose de l'amour propre vient s'y mêler, eh bien, cette action est souillée. Qui tient compte de tous ces péchés? Le psalmiste dit, « Pardonnez-moi les péchés que j'ignore. » Nous savons exactement ce que Dieu nous doit, nous savons exactement quelle chose il doit nous renvoyer pour nous bénir de tout ce que nous avons fait pour lui, mais tout ce que lui, tout ce que les anges tiennent compte de ce que nous avons fait, en sommes-nous conscients, mes très chers frères? Afin que poursuivant avec plus de ferveur, nous dit l'oraison, nous fait dire l'oraison. Qu'est-ce que la ferveur, mes très chers frères, sinon l'effet d'un renoncement total à soi-même, à son amour propre, à sa volonté propre. Saint Bernard dit quelque part que si tous les hommes pouvaient renoncer totalement à leur volonté propre, tous les hommes seraient sauvés. Ce qui damne les hommes, c'est leur volonté propre. La volonté propre, c'est la concupiscence, c'est la triple concupiscence, c'est l'amour propre, ce que la théologie appelle l'amour propre. L'amour propre, c'est exclusif de l'amour de Dieu. Alors évidemment, les chrétiens ont une certaine quantité d'amour propre et une certaine quantité de charité. Et les deux se font la guerre. C'est la lutte entre la chair et l'esprit dont parle saint Paul. Mais vous voyez, mes très chers frères, la ferveur, qu'est-ce que c'est? C'est l'effet d'un renoncement total à soi-même, à son amour propre, à sa volonté propre. On confond malheureusement souvent ferveur avec enthousiasme, avec l'activisme. Qu'est-ce qui est à l'origine de la plupart des actions que nous estimons bonnes, sinon la vaine gloire et l'idée que nous sommes utiles à ce qu'on appelle la cause ou l'Église ou Dieu, le Dieu découronné, que par nos actions nous allons recouronner afin qu'il nous renvoie l'ascenseur quand il sera recouronné et qu'il régnera et que tous ses ennemis, qui sont surtout les nôtres, seront écrasés, détruits et que nous verrons leur ruine. Toutes ces actions que nous faisons et qui nous semblent être empreintes de ferveur, brûlées de la ferveur pour l'amour de Dieu, si nous venions, mes très chers frères, réfléchissons, c'est le moment du bilan, il n'y aura plus d'autres sermons cette année, il n'y aura plus rien. Évidemment, l'année prochaine va recommencer la semaine prochaine, mais c'est une autre année, c'est la même année, c'est une autre année. Si nous faisons le bilan, mes très chers frères, et si nous examinons nos meilleures actions, tout notre enthousiasme pour Dieu, et que, si cela était possible, nous en enlevions entièrement l'amour propre, la concupiscence, c'est-à-dire l'amour de soi, eh bien, mes très chers frères, il est fort probable qu'il n'en resterait quasiment rien. Il n'en resterait qu'une petite trace qui correspond au fait que nous sommes chrétiens et que quelque chose en nous, nouvelle créature régénérée par le baptême, fait que nous avons une prédisposition à tendre vers Dieu. Mais si nous enlevons notre amour propre, si nous pouvions enlever en pensée notre amour propre de notre enthousiasme, nous nous apercevrions que nous ne faisons strictement rien pour Dieu qui ne soit pour nous-mêmes, pour l'amour de nous. Tous les efforts que nous entreprenons sont des efforts pour notre concupiscence. Alors vous allez dire, et les saints alors? Justement, sommes-nous saints? Malheureusement, il y a une erreur à notre époque, c'est de prendre la sainteté pour, si l'on peut dire, ce qu'on appelle familièrement la niaque. C'est-à-dire la sainteté, l'état de grâce, c'est le moteur de la militance, c'est le moteur de ce que nous faisons pour notre Dieu découronné, c'est le moteur de ce que nous faisons pour la cause, et en réalité, la sainteté qui n'est autre qu'une vie parfaitement déprise d'elle-même et qui vit non pas elle mais le Christ en elle, devient le moteur de quelque chose de purement humain dont Dieu, et c'est ça qui est encore plus extraordinairement blasphématoire, dont Dieu est le bénéficiaire. C'est-à-dire que Dieu ne pouvant pas, Dieu est une sorte de père gâteux, qui ne peut strictement rien pour lui, on lui a donné une pichenette sur sa casquette, elle est tombée par terre, il a un lumbago, c'est-à-dire il ne peut pas se baisser pour la ramasser, et nous allons le recouronner. Alors vous allez dire, je ne suis pas de ceux qui pensent que le Christ est découronné. Non, mais vous agissez comme si le Christ était impuissant, puisque vous agissez pour lui, sans lui demander si c'est sa volonté. Alors vous allez dire, j'ai consulté des personnes, des prêtres, m'ont encouragé. Tout ce que nous faisons, mes très chers frères, c'est par la concupiscence. Je ne dis pas que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit sans la concupiscence. Bien sûr que nous le pouvons, et je dirais même que nous le devons. Nous le devons. Essayons de faire d'ici la fin de l'année une action bonne, non empreinte de concupiscence. Et vous allez voir que c'est une chose tout à fait extraordinaire pour nos propres forces, pour nos forces. C'est même quelque chose d'impossible. Il faut aimer Dieu par-dessus tout, et comme nous le verrons, être dans l'ordre pour pouvoir être en état de grâce, pour pouvoir mériter, pour pouvoir faire quelque chose qui n'est pas aussi empreint de concupiscence qu'elle le pourrait. Donc, vous voyez, poursuivant avec plus de ferveur le fruit des bonnes œuvres. La ferveur, c'est donc l'effet du renoncement total à soi-même, à sa concupiscence, à son amour propre, à sa volonté propre. Et le fruit des bonnes œuvres, qu'est-ce que c'est? C'est la gloire de Dieu. Ce n'est pas l'avancement de la cause, ce n'est pas le recouronnement du Christ, je l'ai dit. Ce n'est pas non plus, que sais-je, la refrancisation, la prise de conscience du plus grand nombre, de la trahison des élites. Les bonnes œuvres, c'est Dieu étant glorifié par des hommes et des femmes crucifiés à eux-mêmes et qui ne vivent que pour Dieu. Évidemment, la question qui nous vient est la seule qui nous intéresse. Oui, mais est-ce que ces hommes et ces femmes peuvent agir pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu? Dieu règne, mes très chers frères, Dieu règne. Dieu règne. La volonté est une vaste illusion dont tous les modernes se crèvent les yeux pour ne pas voir que Dieu règne. Il règne incommensurablement au siècle des siècles. Dieu n'est pas découronné, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu veut que nous vivions à sa gloire maintenant. Il veut que nous produisions devant les hommes des bonnes œuvres, non pas des actions de militance, mais des bonnes œuvres. Quel est le moteur qui fait faire à l'homme, même à l'homme païen, des miracles, sinon une volonté propre invincible, une concupiscence qui se pare des vêtements de la piété? Ça, c'est pour le chrétien. Le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, dit l'Écriture, qui peut le connaître? On a l'impression, dans nos milieux, que si nous militons, si nous faisons quelque chose pour Dieu, alors nous sommes en quelque sorte absous de tous nos péchés, toutes nos fautes, et tout cela n'est jamais que des faiblesses qui, d'une certaine manière, nous freinent dans notre action. Ce ne sont pas tellement des choses qui offensent infiniment Dieu et qui augmentent une dette inexorable que nous avons envers lui, et qui ne peut être épongée que par sa miséricorde et par notre pénitence. Ce sont des impédiments avec lesquels nous devons courir et nous devons les résorber de telle sorte à être plus efficaces. Vous voyez, dans certains milieux même, le simple fait d'être d'accord avec telle ou telle personne est considéré déjà comme quelque chose d'héroïque. L'héroïcité, c'est l'Église qui la définit, c'est l'Église qui la juge, c'est l'Église qui dit si nous avons été héroïques ou pas, et encore quand nous sommes morts. Aujourd'hui, combien de gens utilisent l'expression de saint Paul à la veille de sa décapitation, « Fidem servavi », « j'ai gardé la foi ». Bien sûr, nous pouvons dire, apparemment jusqu'à présent, j'ai gardé la foi, c'est vrai, mais par la grâce de Dieu, et sommes-nous saint Paul pour dire j'ai gardé la foi comme un gardien de la foi. Nous ne sommes que des gens qui mettons en pratique la foi, nous ne sommes pas les gardiens de la foi. Du moins, je parle en général pour tous les fidèles. Mes très chers frères, il nous faut, en cette fin d'année, examiner nos motivations, examiner nos actions, et voir si nous avons agi pour Dieu, réellement selon Dieu, pas selon notre petite idée. Notre Seigneur nous dit dans l'Évangile, « Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi dans le lieu saint, que celui qui lit comprenne. » Tout le monde, surtout aujourd'hui, y va de sa petite idée. L'abomination de la désolation, c'est ceci, c'est cela, c'est la Pachamama, c'est la nouvelle messe, c'est l'invalidité, des sacrements. Et d'une certaine manière, c'est un peu tout cela, évidemment. Mais vous voyez, mes très chers frères, c'est beaucoup plus que cela. Un auteur nous dit « La profanation des choses saintes est une marque terrible de la colère de Dieu. » L'abomination de la désolation, sans entrer dans les détails, c'est la profanation des choses saintes. Or, bien sûr, nous voyons les choses saintes être profanées, mais à strictement parler, ces choses saintes ont été profanées par des gens qui étaient déjà profanateurs. Si nous sommes ces dévacantistes, nous estimons que nous ne pouvons pas estimer, à strictement parler, que la nouvelle messe est l'abomination de la désolation, sinon ça voudrait dire que Paul VI était un vrai pape. Donc il y a certaines ambiguïtés dans l'argumentation. Néanmoins, il y a un peu de vrai partout, bien entendu. Je ne le nie pas. Mais un auteur nous dit « La profanation des choses saintes est une marque terrible de la colère de Dieu. » C'est ainsi que s'exprimaient nos pères. C'est-à-dire que, à aucun moment, ils n'ont vu ils ont eu à l'idée que des hommes méchants pouvaient venir et profaner réellement les choses divines. Bien sûr, il y a eu les empereurs romains qui nous ont persécutés, il y a eu tous les méchants de tous les temps qui ont persécuté l'Église, bien sûr, et qui ont souvent souillé les églises, détruit, profané le Saint-Sacrement, mais ce ne sont pas vraiment des profanations des choses saintes. Ce sont des profanations, bien entendu. Mais il n'y a pas de pire profanation que la profanation du temple par le temple lui-même. Quand Dieu, lassé par l'infidélité de nos pères dans l'Ancien Testament, les Hébreux, a voulu les châtier, il a envoyé les nations détruire et souiller son Saint-Temple. Et ces nations, nous le voyons dans certains passages de l'Ancien Testament, ces nations étaient relativement conscientes de faire l'œuvre de Dieu. Ne suis-je pas envoyé par Dieu, etc. Ce n'est pas les nations qui sont venues, qui ont comploté contre le peuple d'Israël et qui sont venus et qui ont détruit le temple. C'est Dieu, lassé de l'iniquité de nos pères, qui a profané son Saint-Temple, lui-même, qui l'a fait profaner par les nations. Parce que ce Saint-Temple avait déjà été profané, moralement, spirituellement, par l'infidélité morale des Hébreux, et aussi, à certains moments, par l'introduction des idoles dans le temple. À strictement parler, les premières idoles introduites dans le temple n'ont pas été par des païens, elles ont été par les Hébreux eux-mêmes. Quand Dieu, le même Dieu, le Dieu de nos pères, lassé de l'iniquité des chefs de son peuple, a fait éclater sa colère, il a profané son temple en ajoutant aux profanations la profanation et en faisant éclater son juste jugement. Ces derniers siècles ont vu peu à peu grandir la désolation et s'installer dans le temple l'abomination de la désolation. Ça a été d'abord l'invasion du poison du semi-pélagianisme, les attentats réitérés contre la discipline ecclésiastique, l'esprit de domination dont parle Saint-Pierre pour le réfuter, l'irruption de l'Église enseignée dans le champ de l'Église enseignante, l'usurpation des fonctions cléricales par les clercs, spécialement la fonction d'enseignement, la soumission des clercs aux laïcs enseignants, l'adoption des maximes modernes par opportunisme. Mes très chers frères, le soleil s'obscurcit, la lune ne donne plus sa lumière, les étoiles tombent des cieux et les puissances des cieux sont ébranlées. Et l'abomination de la désolation règne par la faute même de ceux qui croient la dénoncer. Notre Seigneur parle du pullulement des faux prophètes et des faux Christ. Certes, cela concerne quelque chose à l'époque de la destruction de Jérusalem, cela concerne quelque chose aussi à l'époque de la fin du monde, qui n'est pas encore tout à fait là, semble-t-il. Enfin, en tout cas, ces faux prophètes qui pullulent, qui vous expliquent qui sont les faux prophètes, ce sont eux les faux prophètes. On se croit aigle, et on s'assemble où il n'y a qu'un cadavre profané par des mains impies qui s'associent avec des impies, soi-disant pour défendre la vérité. Cette parole de notre Seigneur, parole mystérieuse, là où sera le corps, là seront les aigles, les pères nous disent que c'est le corps sacrifié, le corps mort sur l'autel de notre Seigneur, le corps sacramentel de notre Seigneur, qui est donné pour la vie des aigles, c'est-à-dire ceux qui peuvent voir Dieu en face, les cœurs purs en réalité. Aujourd'hui, on se croit des aigles et on vole vers les chapelles ou des centres de messe où on va prendre le corps du Christ pour fortifier sa vie de son état de grâce, comme on dit, et le faire fructifier en des actes de militance. Ce sont des vautours qui se mettent sur un cadavre profané, cadavre sacramentel profané. Les impies s'associent avec les impies. On consacre le corps et le sang du Christ, et on flatte, et on loue, et on recommande des gens qui blasphèment le corps et le sang du Christ. Et les faux prophètes pullulent, les faux aigles aussi. Certes, c'est toujours le même corps, c'est le corps, la présence réelle de notre Seigneur, c'est l'Eucharistie, mais elle est dévorée par des vautours, et non pas par des aigles au cœur pur. Et quand je dis cœur pur, je ne parle pas des gens qui sont dans une sorte de stratosphère idéologique illusoire. Les cœurs purs, qu'est-ce que c'est? Ce sont ceux qui font les œuvres de Dieu et non pas les œuvres de la concupiscence. Or, tout ce qui est fait aujourd'hui dans l'Église, ou presque, est mu par la concupiscence, par l'amour propre, par la vaine gloire. Évidemment, pour les meilleures raisons du monde. Jamais le chaos n'a régné comme il règne aujourd'hui. L'esprit antichristique domine partout, et ceux-là même qui sont dans la détresse incommensurable dont parle l'Évangile, sont les premiers à en entretenir les causes. Notre Seigneur dit « Et si ces jours n'avaient été abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus, propter electos, ces jours seront abrégés. » Personne n'est assuré d'être du nombre des élus, dit un auteur, mais il faut en avoir la confiance, la nourrir et la soutenir par une bonne vie et de bonnes œuvres. Personne ne peut dire « je suis un élu, je persévérerai jusqu'à la fin ». Personne ne le sait, Dieu seul le sait, car c'est lui qui a déterminé le nombre des élus. C'est lui qui sait qui il fera persévérer jusqu'à la fin et qui il ne fera pas persévérer jusqu'à la fin. Le bon semeur sème sa semence, il en jette dans la bonne terre, il en jette sur le chemin, il en jette dans les cailloux, il en jette dans les épines. Il sait que seule la bonne terre portera du fruit. Mais qui peut se savoir bonne terre? Pour espérer faire partie des élus, eh bien, mes très chers frères, il faut déjà avoir confiance en Dieu, et il faut nourrir cette confiance et la soutenir par une bonne vie et des bonnes œuvres. Et ces bonnes œuvres, ce ne sont pas des talents imaginaires mis au service d'une cause plus ou moins imaginaire. Ces bonnes œuvres, ce sont les œuvres qui sont prescrites par la loi de Dieu, ce sont les œuvres qui sont prescrites par la loi de Dieu telles qu'elles sont polarisées dans les États. Il y a des catégories, il y a plusieurs catégories, il y a plusieurs États dans l'Église, et ils ont tous leur dignité, ils ont tous leur respectabilité, même s'ils sont hiérarchisés, certains sont plus grands que d'autres, mais cela n'a aucune importance, chacun est tout à fait apte à permettre la sanctification de celui qui a été placé par la Providence. Et puis il y a des non-États, qui sont en réalité des choses qui ne sont rendues possibles que par la modernité. Il y a des non-États qui font que ceux qui, curieusement, s'y sanctifient, semblent s'y sanctifier avec une ardeur et une ferveur redoublées, en fait, ne travaillent que pour eux-mêmes. Ils suivent leur propre concupiscence, la vanité, l'amour propre, et dedans, et même s'ils ne sont pas des gens infatués d'eux-mêmes, comme cela peut arriver parfois, pas toujours, car l'orgueil éclate beaucoup plus qu'on le voit, ça se voit beaucoup plus, beaucoup plus qu'on le croit, qu'on voudrait le laisser voir, en réalité, dans les non-états, tout ce qu'on y fait, on le fait par l'orgueil, par la concupiscence, par la volonté propre. Nous en avons parlé ailleurs, nous n'allons pas répéter aujourd'hui tout ce que vous savez déjà, mes très chers frères. Alors pour ceux qui, tout en tremblant et en disant avec de nombreuses oraisons de la liturgie, nous qui sommes dénués de tout mérite, saint Paul dit ceci, « Mes frères, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous meniez une vie digne de Dieu, de manière à lui plaire, portant des fruits de toutes sortes de bonnes œuvres et progressant dans la science de Dieu, fortifiés à tous égards par la puissance de sa gloire pour rester en tout patience et persévérant, etc. » Qu'est-ce qui fait persévérer les chrétiens? En amont, c'est la volonté salvifique du Dieu qui choisit ses élus. Mais ici-bas, qu'est-ce qui fait persévérer les chrétiens? Alors vous allez dire, c'est la grâce. C'est vrai, mais ce n'est pas entièrement vrai. C'est le fait d'aimer Dieu, c'est la charité. C'est vrai, mais ce n'est pas la réponse. La foi, l'espérance, effectivement, mais ce n'est pas cela. Ce qui fait persévérer les fidèles, c'est la prière de ceux qui ont été commis par Dieu pour être les pasteurs des fidèles. Qu'est-ce qui fait qu'une brebis dans un troupeau est en bonne santé? Alors on dira, elle a de la bonne, c'est qu'elle est de la bonne herbe, c'est qu'elle est de la bonne eau, c'est qu'elle est qu'elle soit en paix. Oui, mais ce n'est pas vraiment la réponse. Qu'est-ce qui fait que la brebis peut être en paix et se développer? C'est qu'elle a un bon pasteur. C'est donc la présence des pasteurs qui détermine la fidélité des fidèles. Alors vous allez dire, on voit souvent des gens qui sont aujourd'hui ou ailleurs, ou à notre temps, des gens qui persévèrent sous de bons pasteurs et qui se damnent. Enfin, qui persévèrent un moment et puis ensuite qui se damnent. Évidemment, les bons pasteurs, les pasteurs ne sont pas censés sauver les gens contre leur gré. Mais quand on se fait une gloire et quand on se fait une doctrine de ne pas avoir de pasteur, que ce soit les homelonneurs, les chrétiens qui s'imaginent, les gens qui s'imaginent pouvoir se passer de prêtre, que ce soit les prêtres qui s'imaginent qu'il n'y a plus d'évêques et qui ne veulent pas leur être soumis, il y a heureusement un certain nombre d'évêques vraiment catholiques dans le monde, chaque prêtre peut trouver le sien, ces prêtres-là, il ne faut pas s'étonner à ce que leur troupeau, dans leur troupeau, ou bien l'on persévère par un pur orgueil, c'est-à-dire l'amour-propre, et l'orgueil, quand je dis orgueil, c'est plutôt la concupiscence, on y persévère parce qu'on a un intérêt à y persévérer, et c'est la concupiscence, ou alors on devient fou. Et nombreux sont ceux, mes très chers frères, vous le savez, qui finissent à l'asile, pour avoir littéralement à l'asile et en camisole de force, pour avoir été privés par ces faux pasteurs du second ordre, de l'assistance spirituelle et des prières des pasteurs du premier ordre. Mes frères, nous ne cessons de prier pour vous et de demander à Dieu de vous remplir de la connaissance de sa volonté. Les Colossiens auraient-ils pu être remplis par Dieu de la connaissance de sa volonté, etc., si saint Paul, si leur évêque, n'avait pas prié pour eux? Non. La réponse est non. Si nous répondons oui, alors ça veut dire que saint Paul dit quelque chose qui n'est pas entièrement vrai, c'est-à-dire que, qu'il prie ou pas, de toute façon, Dieu donne sa grâce, sa connaissance, etc. Ce qui n'est pas vrai. Les grâces viennent au moyen d'un système qui ressemble à des cascades. C'est-à-dire qu'elles viennent d'en haut et elles se déversent progressivement et constamment sur les divers paliers de la hiérarchie, de telle sorte que, comme dit saint Denis, ceux qui sont en bas bénéficient de ce que leur donnent ceux qui sont en haut. Mais si ceux qui sont en bas disent qu'il n'y a personne en haut, alors il ne faut pas s'étonner à ce qu'ils ne reçoivent pas non plus les grâces qui sont en haut. Et ils vont dire, les grâces passent directement du Christ à nous, ou de la religion, du Saint-Sacrement, que sais-je. C'est faux. C'est totalement faux. Sinon, les schismatiques, les hérétiques, les malheureux qui sont valides mais qui sont en dehors de l'Église, recevraient des grâces. Or, on sait très bien que le sacrement peut être valide, mais totalement sans fruit. Sinon, il y aurait des saints chez les hérétiques valides. Et c'est impossible. Nous devons le dire, c'est une chose, c'est une vérité de foi, il n'y a pas de saints chez les schismatiques, il n'y a pas de saints chez les hérétiques. Il n'y a que des orgueilleux, extrêmes. Eh bien, mes très chers frères, si saint Paul, si la hiérarchie qui rend l'Église visible, quelle que soit sa petitesse ou son apparente destruction, s'il n'y a pas la hiérarchie, il n'y a pas non plus de grâce qui vienne. Vous allez dire, de toute façon, il n'y a pas de pape, et donc il n'y a plus de grâce. Ce n'est pas aussi simple que cela, mes très chers frères. Car en haut, tout en haut, il y a le pape, certes, mais il y a le collège des évêques aussi. Et le collège des évêques ne fait pas partie de l'Église enseignée. Il est constitutif de l'Église enseignante, le pape étant l'arbitre suprême. Évidemment, si vous détruisez, comme cela a été fait, au moins conceptuellement, l'importance des évêques, alors évidemment, l'absence de pape est quelque chose de dramatique, et ça l'est dans l'absolu, mais ça l'est moins qu'on peut s'imaginer en ces temps de chaos, en ces temps où le pasteur, en quelque sorte, a été frappé pour ses péchés, pour sa prévarication, pour tout ce qui a été fait d'attentatoire au dogme, à la discipline et je dirais presque aux mœurs, durant ces deux derniers siècles, ou ces trois derniers siècles, nous sommes déjà au XXIe siècle. Vous voyez, mes très chers frères, saint Paul prie pour nous, et le Christ est le chef de l'Église. Nous devons prier pour que les choses rentrent dans l'ordre, selon la volonté de Dieu, mais nous devons être déjà en ordre, car l'ordre n'a jamais cessé d'être. Donc, mes très chers frères, si nous nous gargarisons du spectacle de l'abomination de la désolation chez les autres et que nous ne nous rendons pas compte qu'en réalité, non seulement il règne dans notre cœur, ce spectacle ou cette abomination, elle règne dans notre cœur, mais que nous en sommes ceux qui, d'une certaine manière, en font la promotion la plus grande, puisque nous profanons en nous le temple de Dieu, alors, mes très chers frères, nous n'avons, si nous ne comprenons pas cela, alors nous n'avons rien compris. Jusqu'à la fin du monde, disais-je, il y aura des pasteurs pour prier pour les prêtres et pour les fidèles. Sans cette prière et cet office pastoral, il n'y a pas d'Église. Or, les promesses faites par notre Seigneur Jésus-Christ à l'Église sont inébranlables. Quand bien même Satan empoisonnerait le monde, l'Église, enfin, les chrétiens de ses mensonges, ceux qui sont les brebis du bon pasteur écoutent sa voix et le suivent parce qu'elles le connaissent. Dans l'Épître, saint Paul dit ceci encore, « Afin que fortifiés à tous égards par la puissance de sa gloire, pour rester en toute patience et persévérant dans un sentiment de joie, rendant grâce à Dieu le Père, qui nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a arrachés à la puissance des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. » Il n'y a nulle trace de militance, de stratégie, de combat dans ces paroles de saint Paul. La persévérance, dit-il, ne peut exister que par l'insertion dans l'ordre ecclésial et par la lutte de la charité contre la concupiscence. Toute autre voie est illusion, et cette illusion se manifestera toujours par une stérilité tant pour la vie éternelle, mais pour la vie temporelle. Regardez bien, mes très chers frères, tout ce que la militance a fait depuis 50 ans est frappé de stérilité, puisqu'à chaque génération, c'est-à-dire à peu près tous les 10 ans, il arrive des gens qui ne sont pas les fils des premiers militants, mais qui sont de lointains frères, de lointains clones, si j'ose dire, qui refont toujours la même chose, qui varient avec des talents divers, mais qui refont toujours la même chose jusqu'à ce qu'ils tombent dans le découragement ou qu'ils s'encroutent dans une sorte de semi-réalisation qui s'avère de toute façon stérile et improductive. Si nous pouvions nous rendre compte combien de temps nous perdons dans nos milieux, combien de temps nous avons perdu à faire n'importe quoi et à combattre pour le Christ roi, alors que le Christ règne et qu'il veut que nous nous soumettions à son règne réel et présent, et éternel et indestructible, alors, mes très chers frères, si nous nous rendions compte de cela, nous ferions pénitence. Mais au lieu de faire pénitence et de vivre selon l'ordre, nous préférons, encore une fois, briser et passer par-dessus l'ordre pour essayer de réveiller le plus grand nombre de gens possible, quitte à envoyer au ciel des malheureux qui, de toute évidence, n'auront pas été de ceux que saint Paul dit avoir rendu digne d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oui, mes très chers frères, nous qui avons été arrachés à la puissance des ténèbres et que Dieu nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission de nos péchés, soumettons-nous à l'ordre, vivons selon l'ordre, selon notre état, ne cherchons pas les choses qui sont plus hautes et trop hautes pour nous, vivons à la gloire de Dieu, et c'est ainsi que peut-être, moyennant le combat contre la concupiscence, nous aurons quelques mérites à présenter à Dieu, et ce seront les mérites de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption par son sang et la rémission des péchés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.